Vous allez écouter l'émission Mot de passe.
Le mois de mars, c'est le début de la fin de l'hiver, mais c'est aussi le début du printemps. Patience, les beaux jours arrivent. Et avec eux, le renouveau, les envies de se faire du bien à l'esprit et au corps. Moi, je m'occupe de l'esprit. Enfin, heureusement pour vous, je ne suis pas toute seule. Je serai juste votre guide pour 7 heures d'émission. Toujours aux manettes, Florian, qui bien entendu assure que tout se passe bien. On est bien au chaud sur RTVFM 102.2. Au programme, une rencontre, un lieu, un livre, je dirais même mieux des tas de livres. Une petite lecture à voix haute de Pétrarque pour accompagner la rencontre du mois. Ma bande dessinée de mars, pas la barre chocolatée ni la planète, mais le mois de mars. Et c'est bien normal parce que c'est son année à la bande dessinée. Et pour finir, l'actualité culturelle du Tour Ventoux. Réseau. Je ne sais pas vous, mais j'ai un peu de mal avec ce mot. Le réseau, c'est un filet, comme celui dans lequel des tonnes de poissons se meurent. Sans lui, rien ne se construit, paraît-il. Avant moi, j'avais des relations. Maintenant, en dehors des zones non couvertes par une antenne, j'ai du réseau. Par ce maillage numérique, mais avant tout humain, par nos centres d'intérêt communs, parce que les mots, les belles histoires, les connaissances nous meuvent. J'ai par ce truchement obtenu l'adresse d'un lieu unique autour du Ventoux. Dans une petite maison adossée à la montagne, un esprit vibrant fait vivre les lieux. Je vous présente Nathalie David.
Au détour d'une rencontre.
Nathalie David, c'est une rencontre, on est à Esprit des Lieux. Alors je dis on est à Esprit des Lieux, je ne sais pas si le terme est approprié, mais Nathalie David va se présenter et puis elle va nous dire où on est et puis si vous pouviez nous détailler l'endroit, parce que là on ne voit pas, hein, on entend mais on ne voit pas, donc il va falloir que votre voix soit les yeux de nos auditeurs. Nathalie David, qui êtes-vous et où sommes-nous ?
Eh bien donc moi je suis une éditrice d'une maison d'édition qui s'appelle Esprit des Lieux. J'étais installée à Brantes depuis 20 ans, où j'ai toujours fait que des livres sur le Mont Ventoux, parce que c'est ma passion et c'est ce que je vois par ma fenêtre, donc ça m'a toujours inspirée. Et où est-ce qu'on est ici ? Ben, on est ici dans l'ancienne maison forestière de Saint-Léger du Ventoux. Voilà, c'est une maison forestière qui était abandonnée depuis une bonne vingtaine d'années. Et depuis tout ce temps, je passais devant et je la regardais et je me disais quand même ce serait bien d'installer la librairie dedans pour mieux amener les gens dans la forêt. Pour leur faire connaître aussi ce magnifique biotope qu'on a juste ici et qui est très méconnu parce que la vallée du Toulouain, c'est un petit endroit un peu reculé qui possède de grandes richesses naturelles.
Alors là, elle pose un petit peu le lieu. Alors, vous êtes éditrice, ça m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est évidemment le lieu et on a entendu le Toulourenc. Alors le Toulourenc, il s'avère qu'on connaît un petit peu, même si on vient de Carpentras. Parce qu'il y a de très belles randonnées que l'on fait autour du Toulourenc, hein, justement ouais. Une aquarando bien connue. Venez pas tous en même temps, hein, non plus, ce serait désagréable. Donc, éditrice, comment vous êtes venue à l'édition, Nathalie David ?
Alors, c'est comme dans la vie, comme toujours, des rencontres. Donc, auparavant, j'étais professeure et je rêvais d'habiter, j'ai habité déjà, j'ai toujours habité cette vallée, mais d'y vivre toute l'année, quoi, en fait, et d'y travailler. Donc, que faire dans une vallée, surtout dans les années 80, 90, où il ne se passe pas grand-chose, où il n'y a quand même que quelques voitures par jour à l'époque, contrairement maintenant, où il y en a quand même 75 000 par été. Mais voilà, et donc, je rencontre un monsieur qui me dit être éditeur à Paris. Et donc, je lui dis, c'est formidable. Et en fait, une amitié est née et il me forme et je commence à faire des livres en 2000. Donc, il y a 20 ans cette année.
Alors, elle nous a dit quelque chose. Elle était enseignante. Peut-être l'est-elle encore enseignante. Il faut nous détailler un petit peu, Nathalie.
Oh, depuis toute petite, je voulais être maîtresse, comme on dit. Et puis, j'ai fini prof d'anglais. Voilà.
Prof d'anglais au pied du Ventoux et qui est devenue éditrice. Nathalie David, l'édition, plus particulièrement ici à l'Esprit des Lieux, vous me dites que ça tourne autour du Ventoux, mais précisez un petit peu ce que vous éditez et comment vous faites votre choix de l'édition.
Alors la ligne éditoriale, pour un éditeur, c'est très important. Il faut la choisir. Donc moi, je ne vais pas parler de mes goûts personnels, mais il faut choisir. Donc je ne pouvais pas imaginer publier de grands auteurs, parce qu'il faut rester modeste. Donc à l'époque, peu de livres existaient sur le Mont Ventoux lui-même. Donc très peu d'état des lieux des richesses naturelles, donc le patrimoine de flore, de faune, l'histoire, le patrimoine immobilier aussi, immobilier, les gens, la mémoire. Et je me suis dit, tout ça, quand même, ça mériterait d'être consigné quelque part. Et donc, j'ai pris cette option-là, et il s'avère quand même que chaque livre sorti, publié sur le Mont Ventoux, est quand même son public, parce que cette montagne, elle est un petit peu magnétique et que les gens veulent toujours en savoir plus.
Très, tout à fait, je suis d'accord avec vous. C'est très magnétique. D'ailleurs, c'est un petit peu le Mont Fuji de la Provence. Hein. C'est ce qu'on dit. Comment vous le nommez, vous, le Mont Ventoux, en dehors du Mont Ventoux?
Moi, je le nomme la montagne. C'est tout simplement, je mets un article, c'est la montagne. Lorsqu'il y a eu ce projet de parc naturel régional, je me suis dit, tiens, on va faire quelque chose pour la montagne. Voilà, c'est comme ça, parce que le Ventoux, c'est pas une colline, on le sait. Chaque année, il y a des gens qui trouvent la mort ou des accidents. C'est des gens qui se perdent aussi. C'est une vraie montagne, une vraie montagne.
Alors c'est très bien que vous parliez du parc naturel, puisque dans notre radio RTVFM, on a une émission qui s'appelle Les Pieds dans le Parc, qui était justement pour la promotion du parc qui se fait. Hein, ça y est, c'est validé.
C'est sur le point d'être validé, je crois au mois de juin, ça va être entériné.
Tout à fait. Qu'est-ce que ça va changer pour Esprit des Lieux? Et après, vous allez nous parler un petit peu plus d'Esprit des Lieux, le lieu, enfin des lieux, il va falloir nous expliquer tout ça. Donc le parc, qu'est-ce que ça va changer pour Esprit des Lieux?
Alors le parc, qu'est-ce que ça va changer pour Esprit des Lieux? Déjà, ça a déjà changé des choses pour Esprit des Lieux, parce qu'en fait, le fait de vouloir valoriser la nature, comme c'était aussi déjà, on va dire, notre ligne éditoriale, on a été beaucoup sollicités pour être partenaire. Alors, il y a quelque chose à dire, je suis habitante d'ici depuis toujours, donc j'y ai grandi. Et pour moi, un parc, ça voulait dire beaucoup de tourisme, beaucoup de panneaux. Et j'aime pas forcément ça, parce que même si j'anime un lieu, c'est un lieu qui reste discret, respectueux de la nature. Je veux pas trop de panneautage. Je veux que la nature, elle reste belle comme je l'ai connue depuis toujours. Mais le parc, en fait, a décidé d'aider aussi les habitants de la montagne. Et donc, j'ai remarqué en participant aux commissions que beaucoup d'artisans, beaucoup de producteurs de produits ou de vins ou de gens qui ont des métiers comme moi pouvaient rentrer aussi dans la composition du parc en étant soutenus par une communication, soutenus parfois financièrement pour certaines opérations. Nous ici, par exemple, les structures du parc nous envoient des comédiens, des auteurs. Donc on est une librairie, on est une maison d'édition et c'est important pour nous, des fois, de faire des choses. Et là, maintenant, on a le soutien d'une administration, ce qui n'était jamais le cas avant.
Qui c'est qui vous soutient? Peut-être qu'on les connaît déjà dans notre émission au niveau de la culture.
Alors nous, c'est le syndicat mixte, donc c'est le syndicat mixte d'aménagement du Mont Ventoux par l'intermédiaire de Vincent Thomann.
Donc ça a changé des choses. Alors un parc, alors je suis d'accord avec vous, ça fait toujours un petit peu peur parce qu'il y a le parc, il y a parc d'attractions, il y a parc automobile. Alors que là, vous nous dites qu'en fait, il y a tout un microcosme qu'il faut entretenir, aussi bien l'humain que la nature. C'est ça?
Tout à fait. Et je pense au départ, parce que j'ai suivi cette offre du parc qui dure depuis 20 ans, pas depuis 3 ans. Et le problème qui s'est posé aux politiques, j'imagine, c'est le fait que quand même la montagne soit en danger. Et c'est ça qui a fait, trouvons une solution. Donc ils ont trouvé une seule solution du parc, qui n'était peut-être pas la meilleure, qui ne sera peut-être pas la meilleure, mais en tout cas qui est la solution aux temps actuels. Parce que le Ventoux est en danger par la surfréquentation. Il y a 500 000 véhicules qui passent au sommet chaque année. Il y a des statistiques pour ça. Et il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de toilette. Donc je ne vous dis pas dans quel état, lorsqu'au mois d'octobre, il y a Ventoux propre qui se met en route, c'est des tonnes de déchets. L'année dernière, l'ONF a fait une opération, ils ont sorti quand même 14 tonnes de déchets. Donc c'est juste énorme, on ne se rend pas compte, parce qu'on le voit vite fait, de haut, mais elle était vraiment en danger. Elle est en danger parce qu'il y a un tas de gens, de vélos, de motos, il y a beaucoup de monde.
Là, j'écoute Nathalie David et j'ai fait une grimace et j'ai fait une moue parce que oui, on imagine tous ces déchets qui sont laissés par l'humain. Si vous avez dit 500 000 voitures qui passent pour aller jusqu'au sommet, on l'a tous fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que j'ai envie de continuer à aller au Mont Ventoux. Surtout, j'ai envie de venir à l'Esprit des Lieux. Qu'est-ce que vous conseillez?
Eh bien, moi, ce que je conseille, c'est de promener beaucoup, d'aller voir le Mont Aigoual, d'aller voir le Mont d'Or, d'aller voir toutes ces montagnes qui, en France, dans des régions où la nature, c'est vraiment la priorité, en Bretagne, le parc d'Armoric, comment ils ont géré ça? Et ils l'ont géré très bien. La pointe du Raz, c'était quelque chose qui était déjà très fréquenté. Ça a été entièrement rénové d'une façon respectueuse de l'environnement. Et maintenant, c'est un lieu magnifique, même si ça a soulevé quelques polémiques. Mais aujourd'hui, tout le monde est très content. Le Mont Aigoual, c'est la même chose. Le Puy de Dôme, encore plus, puisqu'il est privé. Mais on a aménagé des voies, des jolies voies de tout niveau pour tous les gens. Gens qui n'aiment pas trop marcher, ceux qui sont experts. Donc je pense qu'il faut aller promener et il y a déjà beaucoup de solutions qui sont pas loin de nous et donc après à choisir celle qui nous convient. Mais voilà, on peut aller plus loin après, on peut aller voir dans les autres biosphères d'Europe. Il se passe plein de choses très intéressantes et très astucieuses aussi.
Alors là, moi j'ai entendu l'enseignante quand même de faire l'analogie, tout de suite nous amener sur un autre terrain pour faire un constat, pour s'apercevoir qu'il y avait un avant, un pendant et un après, et que l'après est profitable pour tous.
Oui. Hein, C'est ça, c'est vraiment que cette montagne, elle est belle, elle a déjà une longue histoire. Lorsqu'on la regarde, ce qui est le plus étonnant, c'est qu'elle est entièrement déjà façonnée par l'homme. On sait tous qu'au XIXe siècle, il ne restait pas un arbre. Et aujourd'hui, on la regarde comme si c'était un espace, le dernier espace préservé de Vaucluse, alors que c'est faux. C'est l'homme qui a fait ça. Donc l'homme est capable de faire des choses extraordinaires. Donc il faut une vraie volonté et on peut recréer quelque chose de sauvage, de simple, d'harmonieux. Avec une volonté.
Je vais vous dire même plus. Alors ça, c'est le chien qu'on entend derrière. C'est le chien de Nathalie David, puisqu'on est à la montagne, dans la montagne même. Dans justement notre émission Laisse les pieds dans le parc, que nous avons sur RTVFM, j'entendais dans une des précédentes émissions que même le Mont Ventoux a été fait par les chasseurs. Alors là, ça soulève beaucoup d'interrogations. Nous qui aimons ces lieux de nature, que les chasseurs ont créé le Mont Ventoux pour y introduire un animal qu'ils vont chasser par la suite, certes, mais c'est eux qui ont planté à la base. Vous l'aviez entendu, vous êtes au courant de cette info?
Non, c'est pas du tout les chasseurs. Je nie absolument parce que c'est vraiment un rayon que je connais bien. Non, c'est pas les chasseurs, c'est vraiment les eaux et forêts de l'époque qui, par décret napoléonien et les crues qui revenaient de plus en plus nombreuses. On a les états des lieux, je les ai là, je pourrais vous les donner tout à l'heure. Non, il y a une érosion trop forte, il y a les gens qui meurent de faim, on ne peut plus rien planter, plus rien ne pousse. Tous les arbres sont décimés, sauf un par hectare, par arrêt préfectoral, donc on les appelle les arbres préfets. Et donc, à partir de là, on décide de replanter, et c'est les eaux et forêts qui rachètent les terres aux communes, et donc emploient les gens. Donc tout le monde est employé, on a les listes aussi de tout le monde. Les hommes, évidemment, à la plantation. Les femmes, lavandière, elles lavent le linge, elles préparent à manger. Et même les enfants ont des branches dans les mains et chassent les oiseaux pour pas que les oiseaux mangent les graines des sapins qui sont plantés. Donc non, c'est pas les chasseurs, c'est vraiment une volonté politique des eaux et forêts de l'époque qui estime que peut-être, dans 100 ans, le Ventoux sera reboisé. Mais ils ne sont même pas sûrs à l'époque.
Alors, quand elle voulait nous apporter des précisions, elle s'est tournée, Nathalie David, et puis elle a une petite révélation à nous faire. Vous êtes retournée vers quel ouvrage, Nathalie David, puisqu'on est au cœur de la librairie, de la maison d'édition Esprit des lieux. Donc, vous êtes retournée vers quoi?
Eh bien, je me suis retournée vers la revue que nous faisons bénévolement, puisque c'est une voix du Ventoux, qui s'appelle « Les carnets du Ventoux ». Et dans lequel on a traité le reboisement du Ventoux il y a un an. Et donc, on a vraiment fait une grosse enquête pour savoir justement qui avait les photos, comment ça s'était passé, cette grande campagne de reboisement du début du siècle, du XXe siècle.
Alors, parlez-nous du carnet du Ventoux. Non, les carnets du Ventoux, soyons précises. Là, je les vois un petit peu sur la table. Déjà, ils sont très jolis. Et puis, évidemment, dominent le Ventoux souvent sur la première page de garde. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que c'est que les carnets du Ventoux?
Alors, les carnets du Ventoux, c'est une publication où les gens du coin sont très attachés. Elle existe depuis 34 ans. Donc, c'est tout un fleuron, on va dire. Et en plus, ça a toujours été une revue entièrement bénévoles. Les auteurs ne sont que des spécialistes locaux, mais spécialistes de par leur métier. Ils écrivent gratuitement pour les carnets du Ventoux, pour que toujours il y ait un lien entre les locaux et leur histoire. Donc dans chaque numéro, qui est un trimestriel, on traite d'un sujet sur 50 pages, et ensuite on parle des gens d'ici. Voilà. Donc, moi, je les ai repris en 2008. Donc, ça fait déjà 12 ans. Et c'est passionnant à chaque fois. Et les sujets ne s'épuisent pas. Il y a toujours des choses à dire.
Et des nouvelles personnes à rencontrer, justement, pour...
Des nouvelles personnes à rencontrer. Et puis, la diversité, le monde change. On a fait un numéro sur la cuisine il y a 10 ans. On en a refait un il n'y a pas longtemps. La cuisine, déjà, même méditerranéenne, a changé. On n'utilise plus les mêmes choses. On ne mange plus de la même façon. Mais on mange les mêmes légumes. Voilà.
Il est esthétique, là je le vois, il est, je sais pas, on dirait sur une trentaine de pages, joliment broché. Au niveau des photos, quelqu'un travaille sur les photos ?
Alors chaque numéro, on a un photographe qui nous fait une photo de couverture. Évidemment, on privilégie le Ventoux, mais pas toujours.
Pas toujours.
Voilà.
Alors moi je suis venue à vous par la grâce de Christophe Gay, qui est photographe aussi animalier, et qui m'a dit, il y a une jolie maison d'édition, je pense que cette maison d'édition, elle fait plutôt de la photo, mais il n'en était pas très sûr. Donc c'est pour ça que je suis venue à vous. Maintenant on va revenir sur votre ligne éditoriale, et qu'est-ce que vous éditez comme ouvrage à l'Esprit des Lieux ?
Alors qu'est-ce qu'on édite comme ouvrage ? Bien comme je vous l'ai dit, que des livres qui ont un rapport avec le Ventoux, alors évidemment des livres pour découvrir la flore. Donc une petite flore faite par Bernard Girard, qui est quand même le spécialiste de la flore en Vaucluse, et au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Mais aussi beaucoup de monographies. On a fait Malocène, on a fait Montbrun, on a fait Suzette très récemment. Donc les villages nous demandent aussi de chercher, de creuser dans leur histoire et de formuler ça dans un livre pour que ça soit à la portée de tous. Chacun a maintenant envie de savoir un petit peu les anecdotes de son village. Et comment ça s'est passé à travers justement la Révolution, mais aussi l'ère républicaine, pour retrouver un petit peu le sens des monuments qui les entourent. Mais on a aussi les arbres classés remarquables. Donc chaque village a un arbre classé remarquable. Les gens ne le savent pas souvent, mais découvrent dans le livre, se disent « Ah, bah, tiens, en fait, ce micocoulier, pourquoi il est remarquable ?» Ou « Tel tilleul, pourquoi ?» Bah, celui-là, il a été planté à la Révolution, mais à la vraie Révolution, pas au bicentenaire. Par exemple, mais ça peut être aussi ensuite...
Attendez, un scoop là, vous me dites qu'il y a un arbre qui a été planté à la Révolution française, si je ne me trompe pas, on est en 1789, et il y a un arbre, alors il est où cet arbre, Nathalie David ?
Il y en a plein, en fait, à la Révolution, les prêtres étaient pour ou contre. Ceux qui étaient contre, on les appelait les prêtres défroqués, mais s'ils disaient leurs avis... Eh bien, évidemment, ils étaient vite zigouillés, hein, comme on dit à l'époque. Donc, ils plantaient un arbre devant l'église. Donc, c'était soit un ormeau en Provence, soit un tilleul. Donc, quand on voit un très gros arbre devant une église, c'est que le prêtre est très défroqué. Donc, ici, dans la vallée, on en a un. C'est l'orme de Brant. À Brant, on a un arbre donc, qui a presque 225 ans et qui est là devant l'église.
Donc, à Brant, on avait un moine défroqué.
Exactement. Mmh. Voilà.
Ça vaut le tour de faire le tour. Ça vaut le coup d'aller à Brant.
Le voir, oui, parce que d'abord, le tronc est énorme. Et puis, les Brantais font très attention à ce qu'il ne meure pas, parce qu'il y a eu la maladie de l'orme. Oui. Et donc, on le soigne, on le taille. Et il vit encore, oui, bien sûr.
Bravo, bravo. Donc, on était sur votre ligne éditoriale. On a différents ouvrages. Est-ce qu'on a du roman chez vous ?
Non, on n'a pas de roman. Je n'ai pas encore trouvé un roman sur le Ventoux qui soit assez peu fantasque et assez intéressant pour que je publie. Voilà.
Alors, j'ai une petite blague pour vous. Alors, je suis venue aujourd'hui parce que ce qui intéresse aussi nos auditeurs, c'est l'édition. Donc, je suis venue avec un manuscrit. Là, je lui fais une blague hein, parce qu'elle n'est pas du tout au courant de ce que je lui fais. Alors, c'est un manuscrit qui a été écrit dans les années 90 par, alors je ne vais pas dire son vrai nom, c'est un alias, on va dire, qui s'appelle Jim Tom. Et il a écrit un roman donc dans les années 90 qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça se passe où ?
Dans le Ventoux.
Dans le Ventoux. Alors, dans le Ventoux. Ce Jim Tom, il l'a écrit donc parce que bah, il a un amour pour le Ventoux et évidemment besoin de raconter cette Deuxième Guerre mondiale sous un autre aspect. Donc je ne dévoilerai pas, je ne vais pas divulgâcher, sous un autre aspect qui n'est pas toujours celui auquel on pense. Donc ça sera. Et je voulais savoir si moi j'arrive à votre maison d'édition avec un ouvrage, avec un manuscrit, qu'est-ce que vous en faites et comment vous le traitez ?
Alors la première chose que je fais évidemment, c'est que je vais le feuilleter. Parce que lorsqu'on est libraire et éditeur, ben on lit beaucoup en diagonale, parce que sinon on n'a pas le temps. Et de temps en temps, lorsqu'on lit comme ça en diagonale, y a un style, une émotion qui sort. Et là, on se dit, non, là, je recommence, mais je lis normalement. Donc, la première étape, elle est là. Et là, il va se passer un coup de cœur ou pas. Mais en tout cas, je vais faire une deuxième étape et je vais lire vraiment. Et lors de cette deuxième étape, évidemment, nous, on a un œil très critique. Mais je vais voir peut-être des redondances ou je vais voir peut-être des choses qui manquent ou trop de fantaisie, un éloignement que je trouve dérangeant, peu importe. Donc, je vais faire mes annotations. Et ensuite, je vais laisser passer un petit peu de temps et je vais me dire est-ce que ça a travaillé dans moi ou pas. Voilà. Et ça, c'est la troisième étape. Et là, je vais répondre à celui qui m'a envoyé ou à celle qui m'a envoyé le manuscrit.
Ça veut dire que vous prenez beaucoup de temps pour lire ce manuscrit ?
La première lecture en diagonale, elle va me prendre une heure. Voilà. Après, la deuxième lecture, elle va me prendre le temps qu'une lecture prend, c'est-à-dire si elle me nourrit. Évidemment, j'ai besoin d'un peu plus de temps ou pas. Mais non, ça ne prend pas vraiment beaucoup de temps, mais il faut être disponible. C'est plutôt ça qui va prendre du temps, le temps d'être disponible pour accueillir, je veux dire, quelque chose de nouveau. Comme je pense nous tous dans la vie, il faut ce moment de calme à l'intérieur pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau et pas avoir un jugement trop rapide.
Alors non, je suis contente d'entendre ça, c'est pas du tout prémédité, je tiens à le dire aux auditeurs, puisqu'on a émis souvent quelques critiques désobligeantes envers les maisons d'édition, mais particulièrement les grandes maisons d'édition, mais qui aux grandes dames reçoivent à peu près 6000 manuscrits dans l'année, c'est vrai que c'est un peu compliqué, hein, si on calcule en temps humain, ça fait trop de temps. Donc du coup, d'entendre une petite maison d'édition, parce qu'on peut, c'est pas négatif, petite maison d'édition, c'est à taille humaine, à taille de Nathalie David. Si on vous envoie tous les mois 2-3 manuscrits, vous allez vous en sortir ou comment vous allez faire ?
Oh, on m'en envoie plus que 2 ou 3, oui, c'est sûr, on m'en envoie plus, mais beaucoup sont complètement à côté de la ligne éditoriale, donc je fais quand même le travail de le lire, comme je dis, en diagonale, pour voir ce que veut dire la personne. Par exemple, récemment, c'est une dame qui a eu une carrière dans le milieu hospitalier, qui m'a envoyé son manuscrit, et c'était passionnant, mais... Un éditeur, il a quand même cette contrainte-là, il doit coller à sa ligne, sinon ça ne veut rien dire. Si tout à coup, demain, je me mets à faire de la BD, c'est pas possible. Ou peut-être une BD sur le Ventoux, voilà. Mais c'est difficile après à défendre auprès des libraires, c'est difficile à défendre auprès de son public. On ne peut pas se permettre de faire des choses trop éparpillées, sinon le lecteur ne s'y retrouve pas, en fait.
Et puis on reconnaît plus la maison d'édition non plus, j'imagine.
Voilà, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'elle publie, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, on ne comprend plus, il n'y a plus de cohérence. Et souvent, ça me limite parce que je lis des choses très intéressantes, mais voilà.
Vous conseillez pour aller vers l'ailleurs ?
Oui, tout à fait, parce qu'ici, cette librairie, elle est un petit peu spéciale. C'est une librairie seulement d'éditeurs indépendants comme moi, francophones. Ça peut être des Belges, des Suisses, des Canadiens. Il y a 89 éditeurs indépendants comme moi dans cette librairie. Il n'y a pas de Gallimard, il n'y a pas de Flammarion. Il y a Actes Sud, oui, parce que c'est quand même un fleuron de notre région. Mais donc, on se connaît tous. Et 88 éditeurs, quand je reçois un manuscrit, des fois, j'ai un peu une idée de me dire, tiens, peut-être ça peut intéresser un de mes collègues. Et donc, voilà, je fais passer le message. Après, c'est pas moi qui décide, mais... Oui, tout à fait. On travaille comme en mutualisation parce qu'on a tous les mêmes problématiques et on a tous envie de faire des livres parce qu'on est des passionnés.
J'espère que ça fera plaisir à Jim Tom qui entendra ça. Je vous raconterai par la suite l'histoire de ce manuscrit que je vous transmets. Alors là, on est dans une petite maison d'édition, mais qui est aussi une librairie. Il y a aussi un chien et on est aussi au pied de la montagne, on est dans la forêt. Mais il se passe plein de choses dans cet endroit, esprit des lieux.
Oui, esprit des lieux. Alors, lorsque j'ai créé la maison d'édition, il y a 20 ans, ça s'appelait les éditions du Toulourin. Voilà, donc c'était vraiment ancré par rapport à ce Toulourin qui représente la face nord du Mont Ventoux. Je trouvais le mot judicieux. Et puis, le temps a passé, j'ai fait des livres qui m'ont beaucoup intéressée, mais qui ne pouvaient pas se vendre ailleurs que là, tout près. Pourquoi ? Parce que tout le monde me disait « Ah, mais Toulourin, ah, mais c'est un truc vraiment local ». Et je me suis dit, peut-être c'est ça en fait qui me pénalise. Et du coup, en 2016, lorsque j'ai concrétisé le projet de venir dans cette maison forestière avec l'ONF, je me suis dit qu'Esprit des lieux, c'était ça. C'était en fait une librairie, mais qui n'est pas une librairie comme les autres. Un parc, mais qui n'est pas un parc comme les autres. Donc, c'est un peu l'esprit des lieux et c'est, ça vient du latin genus loci, c'est-à-dire le génie des lieux. Le génie des lieux, ici, c'est la nature à l'état brut.
Mais il se passe plein de choses parce que le lieu, alors on y va. Alors, il n'est pas ouvert pour l'instant, il est en préparation d'ouverture, vous allez nous préciser les dates. Mais il se passe d'autres choses, il y a des sentiers, c'est un lieu pour les gens qui aiment la nature, la méditation, le recueillement,
le repos.
Et il y a aussi, donc il y a un sentier, et il y a aussi des randonnées, il y a aussi autre chose. Il faut nous dévoiler tout ça, Nathalie.
Ah, il y a beaucoup de choses, oui. Mais, et bien, en fait, l'occasion de venir ici, c'était l'occasion de donner libre cours à tous ceux dont on avait envie. Pour amener les gens dans la forêt, mais tout en n'étant pas surstimulés comme ils pourraient l'être dans d'autres parcs. Donc ici, dans la forêt, on va trouver des hamacs, des bancs pour regarder, des hamacs pour faire la sieste. Ça, ça a très bien marché toute la saison dernière. Et se faire plaisir. Alors donc, on a fait beaucoup de partenariats. Donc un partenariat avec Ventoux Opéra pour amener l'opéra dans la forêt. Et donc, c'est ce qu'on a fait, mais on a amené le vrai opéra, c'est-à-dire avec les vrais solistes, le vrai orchestre, la coiffeuse, la maquilleuse, la retoucheuse, la repasseuse. Tout l'opéra d'Avignon se déplace et on joue ici dans la forêt. Donc ça, c'est une des choses qui se passe ici, par exemple. Ensuite, on fait un grand festival BD aussi. Donc c'est pareil, on amène des tas d'auteurs, mais on les met dans la forêt aussi. Tout le monde va balader dans la forêt. On n'est pas comme dans un salon du livre. On a fait ça plus d'une dizaine d'années à Brandt. Bon, voilà, on a fait le tour. Maintenant, on a envie d'amener les gens balader, qu'ils n'aient pas peur de la forêt, qu'ils la connaissent mieux. Quand ils foulent le sol, ils se disent, tiens, là, en fait, il y a telle petite plante, tel petit insecte. Tout devient un peu magique. Voilà, donc c'est ça qui se passe ici. C'est des soirées de contes aussi, où on parle la nuit avec un conteur. On va s'installer un petit peu plus haut. Il y a une clairière qu'on a un petit peu aménagée, mais juste ce qu'il faut. Et on écoute des contes la nuit, là, sous les étoiles, et tout va bien.
On a très envie de venir, on a très envie d'être déjà avancé dans la saison, mais bon, laissons le temps se faire. Donc, si je viens, je crois que c'est au printemps, le printemps, c'est bientôt. Je peux venir, je viens comment jusqu'ici, et comment je fais pour passer mon temps? Je peux venir manger, boire, comment ça se passe?
Et oui, vous pouvez venir jusqu'ici, donc Vallée du Toulourenc, c'est pas très compliqué, on le trouve facilement. Ensuite, on se gare par contre sur le parking qui est à peu près à 500 mètres de la librairie. Parce qu'à Brandt, j'étais au milieu du village. Les gens devaient déjà se garer en bas et marcher. Donc je trouve que c'est bien qu'il y ait 5 petites minutes de marche pour déconnecter de sa vie d'avant, arriver parmi les arbres. Et puis ici, après, on peut prendre toute la journée, soit pour balader sur ces sentiers thématiques qui sont ponctués d'œuvres d'art. Pas mal d'artistes sont venus faire des installations. On peut faire des jeux de piste aussi. On peut faire aussi des parcours relaxation. Parce qu'on a des petits livrets qui nous amènent d'un arbre à un autre juste pour l'observer. On peut manger parce qu'il y a une buvette qui est ouverte à partir du 15 avril. Où on propose voilà, des petites salades ou des plats ou des soupes. Ça c'est Margot qui fait à manger, qui arrive au 15 avril. On peut passer du temps près de l'eau. Il y a des animaux là qu'on voit pas aujourd'hui parce qu'il pleut, mais ils sont tous là. Des chèvres, des moutons, des vaches. Voilà, on est dans la nature. C'est tout simple et il faut le prendre comme ça. Beaucoup de gens viennent, font un petit tour dans la librairie, vont faire une bonne sieste dans les arbres. Ils reprennent un café, ils s'en vont. Voilà. Ici, c'est simple. C'est pas un parc de stimulation. C'est un endroit où on déconnecte un peu et on est tranquille.
Là, ça donne très envie. Je vais peut-être rester là. C'est une librairie, vous êtes éditrice, vous êtes enseignante, le mot a son importance. La question que je pose traditionnellement dans cette émission, c'est quel livre a bouleversé votre vie et vous en êtes où maintenant avec le livre?
Alors, un des livres qui m'a donné envie de lire, c'est L'Idiot de Dostoïevski. Alors là, j'avais 20 ans, je lis L'Idiot de Dostoïevski et je me dis, mais c'est merveilleux parce que j'ai vu un film extraordinaire. Voilà, j'ai dit j'ai vu un film. Et après, un livre qui a vraiment, vraiment bouleversé ma vie et qui m'a donné envie de changer d'orientation et de ne pas réaliser mes rêves, ça serait peut-être présomptueux parce que je ne suis pas quelqu'un de la lumière, mais plutôt de l'ombre. C'est La montagne de l'âme de Gao Xingjian. Quand il a été prix Nobel, j'ai découvert ce livre. Et ce livre, c'est le plus beau livre que j'ai lu. Voilà, c'est vraiment une longue quête vers cette montagne de l'âme qui finalement, enfin, je ne vais pas spoiler comme on dit, mais je vous laisse découvrir.
Moi j'ai dit divulgaché, hein, Nathalie.
Vous l'avez lu ?
Alors je l'ai lu, un beau pavé aussi.
Voilà, et c'est vrai que c'est un livre qui fait 1000 pages et au bout de 500 on en a marre, on a envie de le fermer, on n'en peut plus. Et en fait c'est comme dans la vie, il y a des fois on en a marre, on n'en peut plus et en fait on continue à lire et voilà, et en fait c'est une autre phase plus calme et on continue notre cheminement tranquillement jusqu'à cette montagne de l'âme. Et voilà, ce livre il est juste merveilleux quoi, en fait.
Alors oui, il faut bien préciser que c'est un 1000 pages parce que l'objectif de mon émission c'est d'aussi donner envie aux gens de venir à la lecture. Et là c'est vrai qu'on peut pas commencer par un 1000 pages.
Alors, on peut commencer par un autre qui est beaucoup plus court et que j'affectionne particulièrement parce que ça fait déjà 3 fois que je le réédite. C'est l'ascension de Pétrarque au Ventoux. Et ça c'est... Et d'ailleurs, chaque année, à la librairie, on fait un petit carnet avec une phrase. Donc, il y a 2 ans, c'était la phrase d'Imre Kertész qui venait de nous quitter. C'est un auteur hongrois que j'aimais beaucoup. Et l'année dernière, c'était une phrase de Pétrarque parce qu'on était en plein travaux. Et donc, Pétrarque, lorsqu'il monte au Ventoux, il trouve que c'est dur. Il n'a pas trop envie de prendre le chemin. Il essaye de louvoyer. Bon, il dit, je vais peut-être faire des petits écarts et ça va être moins dur pour mes jambes. Et en fait, à un moment, il se rappelle une phrase qui est « Vouloir est peu. Pour triompher, il faut désirer ardemment. » Voilà. Et le « ardemment » change tout. À partir du moment où on n'est plus dans le vouloir, mais dans le désirer, tout devient plus facile et tout devient moins compliqué. Voilà. C'est les deux choses. Voilà.
C'est super, oui.
Et donc, voilà, ce Pétrarque, on peut le lire en long, en large, en travers. L'histoire est toujours la même, c'est qu'on est insatiable, on a envie de découvrir tout, on a envie de dépasser les montagnes, on a envie de traverser les mers, mais au final, on se néglige toujours soi-même. Et c'est ce qui nous explique en 10 pages magistrales, puisqu'elles ont traversé 7 siècles. On est là, avide de faire des tas de choses, mais on se néglige soi-même. Parce que Pétrarque, quand même, il y a 7 siècles, il est au sommet du Ventoux, il sort un livre gros comme le poing. Alors vous imaginez, au XIVe siècle, il n'y a pas encore l'imprimerie.
Oui.
Il sort le premier livre de poche.
Oui.
Il l'ouvre au vent et la page sur laquelle ça tombe, c'est celle-là. Toi, pèlerin, qui va par découvrir les continents, les fleuves, les océans, mais tu te négliges toi-même. Et en fait, il a fait que parler avec son frère tout le long de l'ascension, en râlant, en montant, en louvoyant, comme on a dit. Il descend sans dire un mot. Il comprend, il dit mais oui, pourquoi faire tout ça alors qu'en fait tout est là. Si je suis heureux dedans, tout est fini quoi. J'ai pas besoin de me dépasser sans arrêt. Tout le bonheur, il est déjà là. Vous vous rendez compte, il avait 7 siècles d'avance sur Freud, sur tout le monde quoi en fait. C'est un avant-gardiste. Donc j'adore ce texte et l'année dernière, je l'ai publié en bilingue. Avant, je l'ai publié avec des gravures. Là, je vais le republier encore avec des photos. J'adore ce texte parce qu'il est intemporel.
C'est vrai que je l'ai lu, l'ascension du Mont Ventoux. Alors, c'est le chien. Je vais fermer la porte. Hein. C'est le chien parce que depuis tout à l'heure, il était dehors. Mais finalement, la chaleur, elle est dedans. Donc, hop, on referme la porte. L'ascension du Mont Ventoux par plus tard, oui, c'est vrai. C'est psychanalytique, en fait. Hein. Je suis assez d'accord avec vous. Hein. Et cette descente sans mots, tout est dit dans cette descente sans mots.
Tout est dit dans cette descente sans mots. Il s'aperçoit que oui, voilà, tout à coup, le grand monde dans lequel on vit, il est dans lui. Il n'est pas dehors. Il est dans
le chien est mouillé.
il va se calmer dans 5 minutes, mais il a un petit moment d'excitation.
Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur ce lieu magique, sur cette vocation d'éditrice, de libraire, de cette fusion avec le Ventoux? Qu'est-ce que vous aimeriez rajouter, Nathalie?
J'y pense souvent. Je me dis, mais en fait, pourquoi je fais tout ça? Et je crois quand même que la réponse, elle date de ces vieux rêves de l'époque où je disais, je veux être maîtresse. C'est parce qu'en fait, je pense que c'est toujours la même façon de transmettre. Ce que j'ai envie, c'est de transmettre ce bel héritage, de transmettre ce Ventoux que je connais ici par cœur, puisque j'y ai grandi, de transmettre par les livres enfin, le travail merveilleux des auteurs, parce que moi, je suis éditrice, mais je rencontre des auteurs, et quel respect pour ces gens qui donnent des fois 4 ans, 5 ans, 10 ans de leur vie pour aboutir un ouvrage. Enfin, moi, un livre, je le fais en 4 mois. Eux, ils ont travaillé, ils ont donné tout pendant des années. Donc c'est de toujours chercher à le partager ou à le transmettre. Et je crois qu'en ça, bah, je reste ce que j'ai toujours été, c'est-à-dire cette petite fille qui avait envie d'être maîtresse, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a un lien.
La transmission, ça serait votre leitmotiv.
Voilà. Et comme dit Bernard Mondon, qui est le directeur de publication des carnets du Ventoux, le parc naturel régional, c'est le PNR. Mais pour lui, c'est pour nous réunir. Et je crois que c'est vraiment une bonne formule, parce que lorsque j'étais plus jeune, Bédouin, Sceaux, Malocène, Vallée du Sourinc, personne ne se connaît. Personne ne veut même entendre parler du côté sud. Au côté sud, on dit « Ah, le nord, c'est la misère ». Et maintenant, grâce à cette image qui travaille depuis quelques années, on commence à se sentir une unité de gens qui habitent autour du Ventoux.
Alors c'est très bien ce que vous dites, parce que justement, je vous disais, quand je suis arrivée, j'ai une petite angoisse, il faut le dire, puisque j'ai aussi une ligne, et ma ligne dans l'émission Mot de passe, c'est évidemment d'être autour du Ventoux, puisque RTVFM, c'est ça, Radio Tour Ventoux, et de rester autant que possible dans le Vaucluse. En fait, le Ventoux, on a peut-être la visite, le Ventoux doit rester à vue dans notre émission, et évidemment RTVFM. Et là, quand je suis arrivée jusqu'à vous, en partant de Carpentras, je suis passée dans les Alpes, dans la Drôme, j'ai changé de département à la Drôme, le Vaucluse me disant au revoir, et là, alors on est où en fait? On est toujours dans le Vaucluse ici?
On est toujours dans le Vaucluse, la vallée de Toulon, c'est comme une petite enclave. On passe d'abord dans la Drôme, on repasse dans le Vaucluse, et 10 km plus loin, on repasse dans la Drôme encore. Voilà, donc on est juste une petite enclave au nord du Ventoux.
Donc on est bon pour l'émission là.
On est bon pour l'émission, et en plus la vallée de Toulon, c'est quand même le seul endroit, enfin c'est la face nord du Ventoux, par ces trois villages, on représente tout ce paysage qui est alpin, qui est montagnard, c'est pas du tout le même paysage que de l'autre côté où c'est rieur, ensoleillé, déjà beaucoup habité. Nous, on est quand même que 150 personnes dans toute la vallée. Hein. Ça fait pas beaucoup.
Ça fait pas beaucoup. En tout cas, merci pour l'accueil. Le lieu, il est vraiment enchanteur. Je referai une description du bois en plus, du bois vivant, du bois en train de mourir, mais toujours là. Oui. En tout cas, merci pour l'accueil. Est-ce que le dernier mot, il est pour vous, Nathalie David?
Oui, je vais juste le dire comme ça, mais vous couperez. C'est que je me suis toujours demandé si c'était que moi qui aimais autant cette montagne ou s'il y avait des milliers de gens. Et donc, il y a 2 ans, j'ai fait un livre qui est un florilège en fait, de 162 auteurs qui ont écrit sur le Ventoux. Et je me suis rendu compte que Victor Hugo, le président Lincoln était venu en France et avait dit une phrase sur le Mont Ventoux. Que Stendhal a vu le Ventoux, en a parlé, et tous, ils ont eu la même sensation, puisqu'ils ne sont pas toujours venus dans le Ventoux, mais ils l'ont vu de loin d'Avignon, en disant « cette silhouette, elle est magnétique », et c'est le mot qui m'est resté.
On est d'accord, c'est magnétique. Merci Nathalie David, à bientôt. À propos du prix des choses, il est intéressant de se plonger dans l'étude fournie par le magazine Lire de ce mois, sur la répartition du prix d'un livre. De l'auteur à la distribution, il est bien de rappeler que tout un corps de métier œuvre pour nous livrer un manuscrit. Je vous recommande l'article de Clémence Varenne. Mais revenons à notre éditrice, libraire du Mont Ventoux, Nathalie David. Elle cite un florilège de bouquins, dont L'Idiot de Fyodor Dostoïevski, un roman fleuve d'une certaine Russie. La montagne de l'âme de Gao Xingjiang, un esthète romancier, dramaturge, metteur en scène, peintre et surtout prix Nobel de littérature, qui nous emporte dans une grande fresque romanesque chinoise. Imre Kertész est cité pour son opus « Être sans destin ». Je vous livre juste une phrase de son livre pour vous donner le ton. Le fait est que, même en captivité, notre imagination reste libre. Ce feu Imre Kertész est lui aussi prix Nobel de littérature. Je le conseille à notre ami Cyril Abelan pour faire écho à son livre Asna ou le Nouvel Espoir que nous avons eu en entretien les mois précédents. Bon, ce sont de très grands livres, mais très volumineux en pages. À ce titre, à ne pas conseiller aux primo-lecteurs. Mais pour cela, notre cher libraire de l'Esprit des lieux à Saint-Léger du Ventoux nous propose une de ses paritions, plusieurs fois rééditée et enluminée, un tout petit texte, mais culminant à 1900 mètres. Il s'agit de l'ascension du Mont Ventoux de François Pétrarque, ce poète humaniste du XIVe siècle qui, comme le dit bien Nathalie David, nous livre une étude psychanalytique. Je vous lis cette ascension, mais d'abord, un petit envol musical et on se retrouve après la lecture.
Thank you.
Le point culminant de la région porte l'appellation justifiée de Mont Ventoux. Hier, n'écoutant que mon envie de voir ce sommet qui se distingue par son altitude, j'en ai fait l'ascension. Des années durant, j'avais eu l'intention de faire cette excursion. Dès l'enfance, en effet, tu le sais, les hasards de la vie m'établirent en ces lieux. Ainsi en va-t-il des choses humaines, à la merci des caprices du destin. Et par ailleurs, ce mont se voit de loin, de partout, et s'offre presque à chaque instant au regard. Je fus finalement saisie d'un irrésistible désir de réaliser une fois pour toutes ce que je projetais chaque jour, particulièrement lorsque, ayant relu la veille l'histoire de Rome de Tite Live, le hasard eut placé sous mes yeux le passage dans lequel Philippe, roi de Macédoine, celui qui fit la guerre au peuple romain, parvenu au sommet du mont Emus en Thessalie, s'était fié à la tradition d'après laquelle il offrait un point de vue sur deux mers, l'Adriatique et la Pont Euxine. Quant au caractère véridique ou mensonger de la dite tradition, je ne peux me prononcer avec certitude, car l'éloignement de cette montagne, mais aussi le désaccord entre les sources historiques, rendent la chose douteuse. Sans prétendre à l'exhaustivité, je rappellerai que le cosmographe Pomponius Mela corrobore cette tradition sans la moindre hésitation, tandis que Tite Live la juge non véridique. S'il m'était aussi aisé de vérifier par moi-même ce qu'il en est de l'Emus que du Ventoux, je ne laisserai pas longtemps le doute subsister. Cela dit, si nous oublions l'Emus et revenons au Ventoux, m'a paru excusable, s'agissant d'un homme sans notoriété, une attitude qui n'est pas blâmée, s'agissant d'un roi d'âge respectable. Mais quand je me suis demandé qui je souhaitais voir m'accompagner, j'eus l'extrême surprise de peiner à trouver parmi mes amis quelqu'un qui me parut convenir à tout point de vue, tant il est rare, même entre des êtres liés par l'affection, que s'harmonisent parfaitement disposition et traits de caractère. Celui-ci était trop nonchalant, celui-là trop vif, celui-ci était trop lent, celui-là trop rapide, celui-ci était trop morose, celui-là trop enjoué, celui-ci enfin était trop naïf, celui-là trop raisonnable à mon goût. Je redoutais plus que tout autre, tel pour ses silences, tel autre pour ses indiscrétions, tel pour son poids et son embonpoint, tel autre pour sa maigreur et sa faiblesse physique. La froide indifférence de l'un, la prévenance envahissante de l'autre, me détournaient d'eux. Ses défauts, certes contrariants, sont tolérés quand on reste chez soi, car l'affection excuse tout. Et là où il y a de l'amitié, rien n'est trop pesant, mais ces mêmes défauts deviennent plus contrariants quand on voyage. C'est ainsi que mon esprit exigeant, en quête d'un plaisir de qualité et circonspect, les soupesait un à un sans que l'amitié eût à en souffrir et condamnait tacitement tout ce qu'il soupçonnait de pouvoir gâter le plaisir de l'excursion prévue. Comment cela se termina-t-il, d'après toi ? Je finis par me tourner vers mes ressources domestiques et m'ouvrir de mon projet à mon frère cadet que tu connais bien. Rien ne pouvait lui être plus agréable et il se félicita de me tenir lieu d'ami autant que de frère. Partis de chez nous le jour dit, nous atteignons dans la soirée Malocène, au pied de la face nord du Ventoux. Après une seule journée de repos, accompagnés chacun d'un serviteur, nous commençons aujourd'hui enfin l'ascension, non sans maintes difficultés. Ce versant est en effet une masse rocheuse taillée à pic et presque inaccessible, mais comme le dit avec raison le poète, acharné, l'effort triomphe de tout. La longueur du jour, la douceur de l'air, la force mentale, la robustesse et la bonne forme physique, ainsi que d'autres facteurs de cet ordre favorisaient notre marche. Le seul obstacle résidait dans la configuration du lieu. Au creux d'une vallée, nous découvrons la présence d'un berger très avancé en âge, qui s'efforce avec insistance de nous faire renoncer à notre ascension. 50 ans auparavant, il avait grimpé jusqu'au sommet avec le même enthousiasme juvénile que le nôtre et il n'en avait rapporté que regret et épuisement. Le corps entaillé et l'habit déchiré par les pierres et les ronces, et il n'avait jamais, ni auparavant, ni par la suite, entendu dire qu'un des leurs se fût lancé dans pareille aventure. Mais à mesure qu'il cherchait à nous décourager, notre détermination en dignes jeunes gens réfractaires au conseil s'en trouvait renforcée. Comprenant alors l'inutilité de ses efforts, le vieil homme s'avance un peu entre les rochers et nous indique un sentier très escarpé, non sans redoubler de recommandations, mais déjà, nous lui avions tourné le dos et étions repartis. Nous étant délestés auprès de lui de tout vêtement ou objet susceptible d'entraver notre progression, nous ne pensons plus qu'à l'ascension et nous grimpons avec entrain. C'était un petit clin d'œil à la compagnie Maloum. Bon, je ne suis pas une professionnelle de la lecture jouée à voix haute. D'ailleurs, je ne vous ai lu qu'un quart du texte. Le reste vous appartient. Lisez-le. Au travers de cette belle parution que nous a réalisée la maison d'édition Esprit des Lieux, les photographies de Catherine de Clipel accompagnent avec justesse le récit, que l'on retrouve d'ailleurs en anglais et en latin. Un petit bijou et un beau souvenir en passant par Saint-Léger du Ventoux.
Un livre, une BD, la pièce du mois.
Parce que c'est l'année de la BD, parce que souvent déconsidérée, parce que nous avons des auteurs autour de notre Ventoux, parce que c'est très beau, parce que l'histoire fait sens. Ce mois-ci, il faut absolument se jeter dans « Marqué par le diable » de Ticelli et Cortegiani. Sergio Ticelli à l'illustration, et quel dessin ou quelle peinture, précisément au lavis et pastel, dans une esthétique expressionniste nordique bien enneigée. Chaque bulle est une œuvre, chaque planche une ode. On est transporté par la qualité picturale et c'est la première lecture que l'on peut faire en découvrant cette bande dessinée. Au scénario, notre carpentracien François Cortegiani qui nous transporte au Canada dans une ambiance glacée du 19e siècle, dans une histoire arrangée autour d'un fou prophète endiablé, Louis Riel, qui a été bien réel, et ses non moins dérangés disciples sous alcaloïdes, qui rappellent étrangement l'ergot du diable de Pont-Saint-Esprit. Les amateurs de Jim Fergus, Jack London, du film d'Alejandro González Iñárritu, The Revenant, c'est pour vous. Et c'est aussi un très beau cadeau aux éditions Mosquito.
L'actualité littéraire.
Une expo inventaire d'inventions inventées du 6 mars au 2 mai 2020. C'est une exposition d'Eduardo Berti et Monobloc en partenariat avec le Frac Paca et la Marelle. Le service culture et patrimoine de la COV propose une exposition installée dans 4 bibliothèques du territoire, d'Aubignan, Baume de Venise, Carpentras et Sarian. Inventaire d'inventions inventées est une énorme bibliothèque d'inventions littéraires, une bibliothèque faite d'objets qui existent uniquement dans la fiction et qui n'ont existé d'abord que dans les pages d'un livre. L'écrivain argentin Eduardo Berti a procédé à un inventaire d'inventions imaginé par des écrivains du monde entier. Du piano cocktail de Boris Vian aux boucles d'oreilles réveil de Gaston de Pavlovski, le duo Monobloc s'est emparé de ces objets pour créer dessins, logos, vidéos et fabriquer de nouveaux objets inventés. Le résultat est une exposition poétique et ludique et un magnifique livre catalogue aux allures d'inventaire oulipien, publié aux éditions de la Contre-Allée 2017 dans le cadre de Démarche du Frac Paca. Retrouvez l'ensemble de la programmation liée à l'exposition dans les bibliothèques et sur bibliothèque.lacov.fr. Il s'en passe des choses dans nos bibliothèques. Allons-y, c'est gratuit. J'espère vous avoir touché avec la sublime plage musicale de l'album Music for a While, une improvisation sur Henry Purcell de Christina Pluart avec la voix céleste de Philippe Jarouski. J'ai encore séché ma chronique cas d'école, mais faut dire que tous les bouquins sont réservés à bibliothèque.
Mauvaise excuse. Bon, je me rattrape le mois prochain avec mon travail de lecture. Ce sera Nathalie Sarotte et son enfance. Ce récit de vie un petit peu particulier qui est recommandé dans le bulletin officiel de l'Éducation nationale. Je profite d'avoir un peu de temps pour remercier l'équipe de RTVFM et mes potentiels auditeurs. Et surtout, j'attends de vous des partages d'informations culturelles et pourquoi pas des conseils littéraires et des critiques. Je vous embrasse radiophoniquement.